Salut à tous et bienvenue pour ce Fulia Liga podcast consacré à la 27e journée de championnat avec en deuxième partie un focus sur le Real Mallorca promu qui se bat pour se maintenir et qui pourrait bien réussir son pari. Pour m'accompagner ce soir, le retour de la barbe fleurie marseillaise, Benjamin Grochet-Chaline, bonsoir.
Bonsoir.
Et le troisième larron, c'est El Magnifico, Elton Mokolo, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Une fois n'est pas coutume, nous allons démarrer avec le haut du classement et on peut dire que ça va très très vite le foot. La semaine dernière, le Real Madrid a fait coup double, victoire lors du Classico et leadership en Liga. Le Barça était quasiment enterré et puis, au terme de deux matchs les plus approximatifs footballistiquement parlant, les Blaugrana sont repassés devant les Merengues. Les Blaugrana, le Barça a gagné contre la Real Sociedad pendant que les Merengues ont perdu contre le Real Betis. Messieurs, est-ce une surprise de retrouver le Barça leader une semaine après avoir été dépourvu de son trône par le Real Madrid?
Alors, surprise, oui et non, mais on va dire c'est surtout un vrai duel, on peut, pour faire une analogie, c'est un combat d'infirmes, parce que, on a vraiment deux équipes qui se cherchent, qui ont peu de force, qui jouent à se faire peur. Le Real, ils ont perdu deux des trois derniers matchs de Liga. Ils gagnent le plus important pour perdre un match approximatif contre le Real Betis avec encore Zidane qui fait des choix et qui prend le match par le mauvais bout, qui reprend pas vraiment le contrôle. Enfin, il y a plein de choses qui interrogent. Et le Barça, de son côté, fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Il a mis Braithwaite en pointe. Arthur Vidal est rentré, a fait une rentrée détestable. Quand je dis détestable, c'est pas, j'ai rien contre le joueur, mais c'est ce qu'il a, il a vraiment été très très mauvais. Au milieu, il fait avec des joueurs qui sont relancés. Rakitic, c'est quand même un sujet de débat depuis assez longtemps. Il était encore titulaire parce que faute de mieux, dirons-nous. De Jong, il doit apprendre à jouer différemment. Et voilà, on peut avoir encore un Barça qui chute à Mallorca la semaine prochaine ou ailleurs, un Real qui reprend la tête, mais voilà, on n'a pas une domination entre les deux géants, on a plutôt à qui sera le moins mauvais sur les 11 derniers matchs qui va rester et qui va se finir à 2, 3, 4, 1 point devant l'autre, mais vraiment on est sur un duel vraiment vraiment décevant, pas du tout haletant, au contraire, quand on regarde les matchs, quand on voit les compositions, les productions, les vraiment c'est décevant au possible.
Elton, tu valides ?
Exactement, à savoir que moi je suis pas surpris dans la mesure où on le voit bien, c'est surtout à l'extérieur que les deux équipes ont énormément de mal et c'est à l'extérieur où tu vois la qualité de ton jeu, c'est-à-dire si c'est fiable ou si c'est pas fiable. Et on voit du côté du Real, on voit du côté du Barça la semaine dernière, mais globalement depuis quelques semaines, que c'est toujours aussi poussif. Donc, tu as le facteur domicile qui te permet, entre guillemets, d'intimider l'adversaire, qui te permet de jouer sur tes qualités, encore que Barça, ce week-end, ce n'était pas ça. Et donc, au final, moi, je suis pas surpris, parce que on voit deux équipes qui se cherchent, qui n'ont pas évolué sur le plan du jeu, et qui sont dans une logique, on va prendre des points, mais on peut pas capitaliser là-dessus éternellement pour gagner le titre de champion de Ligue 1.
C'est triste de voir ces deux beaux clubs proposer aussi peu. Mais en plus, encore une fois, que le Barçois soit dans une crise, soit dans un problème, ils ont 12 joueurs valides, ils ont changé de coach, ils ont les élections qui arrivent, ils ont des grosses dissensions en interne, ils ont plein de choses. Que le Real, qui a vécu un été plutôt tranquille, qui prend Hazard, qui met des sous sur Jovic, qui perd pas grand monde, on se dit, sans attendre un football chatoyant, emballant, magnifique, qui va susciter des vocations, voir le Real à l'approche du timing ou du momentum d'une saison, être aussi peu sûr de ses forces, c'est quand même c'est dommage, parce que oui, on sait ce que le Real peut produire, on sait que c'est un club qui peut se sortir des modes, mais dans le fond du jeu, sur un championnat de 38 matchs, tu dois dégager une certaine sérénité, une certaine force collective, une certaine assurance. Et ce Real, qui a pourtant peu changé, qui a une ossature qui se connaît, un groupe qui se connaît, aligne des matchs, surtout ces dernières semaines, vraiment, vraiment questionnables, surtout sur la lecture du jeu de Zidane, qui se trompe que ça soit dans son approche en début de match ou dans ses ajustements dans les matchs. Et on va dire qu'il a gagné le match le plus important contre le Barça, peut-être, mais ne pas perdre, prendre 0 points contre un Betis qui restait sur 6 ou 8 matchs sans victoire, c'est quand même, ça fait vraiment, vraiment tâche.
Est-ce qu'il y a pas un, est-ce que c'est pas la résultante, finalement? Est-ce que cette saison-là n'est pas le bout du bout du bout d'années de jeu très moyen en Liga?
Il y a de ça aussi, je pense qu'on n'a pas vu entre les poursuivants pour, enfin, entre les favoris pour le titre. Je pense qu'il faut remonter à la saison 2013-2014. En fin de saison, c'était très poussif, mais maintenant, pour revenir de manière plus précise sur ta question, c'est vrai que on paye des années où, au niveau des choix de coach, on n'a pas eu des coachs qui ont eu des idées très très abouties ou même des idées très très précises sur la manière dont ils veulent faire évoluer leur équipe. Et parallèlement à ça, t'as des équipes en Ligue 1 qui sont dans une notion de travail, notamment sur comment avoir un pressing qui te permette de gêner les adversaires. Donc au final, les équipes locomotives ont eu énormément de mal. Et là, peut-être on est au paroxysme de ce manque d'idées.
C'est fort probable. Mais encore une fois, que le Barça soit dans une telle situation, c'est pas quelque chose de surprenant, mais le Real, c'est vraiment, vraiment décevant. Après, voilà, ça peut gagner à Manchester, ça peut enchaîner 4 victoires et on dire, bon, c'est parti, Vinicius a mis 8 matchs sur, met 8 buts sur les 3 prochains matchs et c'est reparti. Mais vraiment, le rendu, les choix, c'est décevant. Après, est-ce que c'est une résultante d'un Real qui se veut gestionnaire, qui met des sous plutôt sur des talents en devenir, à défaut de vouloir mettre vraiment beaucoup d'argent sur un joueur? Et quand ils mettent beaucoup d'argent sur deux joueurs, 65 millions sur Jovic et un bon gros chèque sur Hazard, l'un joue quasiment pas et là il est quasiment relégué derrière Mariano dans la hiérarchie, et l'autre se blesse, a des difficultés, a des problèmes. Peut-être côté Barça c'est un problème de vision globale, mais côté Real on a peut-être sur une question de la politique du tout jeune ou de la non volonté d'investir sur des joueurs, comment je peux dire, je vais pas dire phare, mais des joueurs sécuritaires, des joueurs qui apportent une garantie sportive sereine, propre, cohérente à court terme et à moyen terme. Ça pose question, parce que là encore on se dit quoi, la nouvelle musique qui est en train de chanter aux côtés du Real, c'est Rainer, la nouvelle recrue, va émerger. Il a fait un bon match contre avec le Casillas ce week-end. Peut-être que ça sera lui qui va dynamiter l'attaque du Real, mais ça pose question quand tu te remets à Vinicius, Rodrigo et Rainer, des joueurs qui ont à peine fini leur puberté. C'est vraiment un questionnement de positionnement, de vision, de choix qui arrive à une production aussi faible et à un Real qui attend, qui est attentif et qui est à la merci d'un des Barça les plus décevants de ces dernières saisons.
Je pense qu'on y reviendra dans les prochains podcasts, dans les semaines qui viennent, peut-être même après l'épisode 8e de finale de retour de la Ligue des Champions. En attendant, le choc de la 27e journée n'a pas donné de vainqueur entre l'Atlético de Madrid et le Sevilla Football Club. On a eu droit à une très belle première période et un festival de la VAR également, match nul 2-2, comment vous avez vu ce match?
C'était un duel très captivant, première mi-temps, sauf pour Cholo Simeone qui n'a pas tellement apprécié. On a vu deux équipes qui avaient de la suite dans les idées. On a vu un Atlético qui a bien réagi après l'ouverture du score de Young, avec notamment un Koke que j'ai trouvé vraiment bon. João Félix qui a sûrement produit son meilleur match depuis qu'il est arrivé du côté de l'Atlético. On a vu en deuxième mi-temps un Atlético qui a été supérieur, notamment au SC Séville, qui n'a pas su capitaliser sur la première mi-temps où ils avaient posé des problèmes à l'équipe de Cholo Simeone. Donc au final, c'est 2 points perdus pour moi par rapport à l'Atlético, pardon. Au final, ils se rassurent dans le jeu dans la perspective d'Anfield.
C'est ça. Encore une fois, j'ai trouvé un Séville intéressant en première mi-temps, mais peu consistant sur la durée, alors que c'est quand même quelque chose qui était plutôt cohérent en première partie de saison du côté des Andalous. Un Séville vraiment vraiment je vais dire dépendant des courses de ses latéraux et de ses ailiers, notamment au Campos. Mais c'était vraiment vraiment moyen Séville. Enfin, moi Séville, je les ai trouvés plutôt bons parce que l'Atlético laissait beaucoup d'espace, n'avait pas cette sécurité défensive, n'avait pas ce travail à la perte. Et dès que l'Atleti s'est mis en ordre de bataille, entre guillemets, mais voilà, a dit voilà, maintenant on cadenasse un peu plus, on fait le travail et la perte, et on est cohérent collectivement, Séville a montré une pâle image, et est encore en tête au classement, 2 points devant l'Atleti et 1 point devant Retafe. Ouais. Mais devant la consistance de la production, moi je suis pas inquiet, mais je m'interroge sur la suite de la saison de Séville. Quand, comme tu l'as dit Elton, l'Atleti, à défaut de prendre 3 points, se rassure, après une nouvelle fois avec une petite crise de résultat ou un questionnement sur son approche, sur ses choix, sur ses joueurs, sur plein de choses. Et on a vu un Joao Félix vraiment intéressant. Dans le même temps, en face, De Jong a été aussi très bon. Deux attaquants qui ont vécu des premières parties de saison particulières et on va dire décevantes.
Alors dans la course à l'Europe, il y a 2 autres équipes qui font du surplace. Valencia qui est tenu en échec par Alavés en ouverture de la 27e journée vendredi soir. Et Getafe qui a conseillé le match nul à domicile contre le Celta avec, je sais pas si vous avez suivi ça, la bromance entre Bordalas et Santimina.
Ah, ça a été,
ils s'adorent, les deux s'adorent.
Exactement, je pense qu'il y a le match de Copa del Rey qui est passé par là l'an dernier. D'ailleurs, t'as Bordalas qui a continué en conf de presse en disant que oui, Santimina ils l'ont rajouté. En tout cas, ouais, ça a été un match assez particulier, c'est-à-dire qu'on a vu un match mais très peu de football. D'ailleurs, on a vu Rafinha sur ses réseaux sociaux qui a mis que c'était la guerre. 11 cartons jaunes, un carton rouge, donc au final, c'est une performance entre guillemets décevante pour Getafe qui aurait pu profiter du fait que l'Atlético et Séville se sont neutralisés, la Real se déplace au Camp Nou, alors que sur le papier, Getafe avait peut-être le match le plus abordable. Il n'en a rien été, il perd de 2 points pour moi.
Je suis plutôt d'accord. Le Celta a vraiment vraiment peu proposé de football. Rafinha a tenté, mais en première partie de saison, on a beaucoup de demi-occasions, de trois quarts d'occasions de Retafe, je vais pas dire un manque de réussite, mais on n'avait pas l'habitude d'avoir la grosse occasion qui finissait au fond. Là, on a une multitude de petites occasions. Mon questionnement, c'est l'approche de Bordalas, parce que mettre Etebo est lié. Qui est plutôt un milieu travailleur, il est ghanéen, il me semble. J'ai un doute. Nigérien, il me semble. Ouais. Et du coup, c'est une questionnement parce que quand t'as un Resson sur le banc qui est plutôt bon, qui a proposé des bonnes choses en première partie de saison et qui est totalement disparu, ça m'interroge. Tu perds 2 points, Retafe, c'est certain. Mais voilà. La physionomie du match, encore une fois, met Retafe dans une situation compliquée. Séville avait proposé un peu la même chose, même s'ils avaient été un peu plus incisifs en contre. On a de plus en plus d'équipes qui laissent vraiment le ballon à Retafe. Retafe qui doit composer avec globalement un effectif qui a du mal à produire du danger quand ils doivent tenir le cuir sur des longues périodes. C'est pour ça qu'il y a ce jeu vertical. C'est une grosse tension quand ils ont le ballon, ils cherchent vraiment à piquer direct parce que dès qu'il faut mettre en place quelque chose d'un peu plus posé, ils ont plus de mal à générer et à profiter des espaces et à générer du danger. Arambari a pris un double jaune, ça lui pendait au nez parce que c'est un garçon qui est quand même, particulier. Il est très uruguayen dans son approche et c'est peut-être le paroxysme du uruguayen parce que je sais plus sur qui il fait la faute, mais il a failli émasculer un mec du Celta Vigo. Il avait déjà mis sa tête là où j'aurais pas mis le pied moi contre l'Ajax au retour. Donc voilà, Retafe, on va dire, sécurise sa place, reste à portée de Séville, même si le match était à sa portée. Et dans la logique de Bordalas, tu joues tous les 3 jours. Une petite gestion d'effectifs, tu perds pas 2 points plus que ça parce que même si en étant en infériorité tu aurais pu prendre un petit but en fin de match, tu le prends pas. Dans sa logique de 1 point, ça reste quand même 1 point pour Retafe, ça reste une bonne opération ou en tout cas la moins mauvaise des opérations.
En ce qui concerne Valence contre Alavés,
c'était poussif.
Alors, en revanche, j'aurais dû parier parce que le coup franc de Palais, je l'ai vu arriver gros comme un camion.
Il avait déjà mis un penalty contre Alavés la semaine dernière, un truc comme ça, non?
Exactement. Ouais, mais ça lui arrive très souvent de marquer des penalties contre Alavés. Il en avait mis un il y a 2-3 saisons aussi. À une époque où, où Valence était plutôt mal. Je crois que c'était contre Alavés, hein, si ma mémoire ne me trompe pas.
L'an dernier, quand ça perd 2-1.
C'est possible, mais il y en a un, il y a 2-3 ans en arrière peut-être. Voir ce qu'on fait avec les Ganes, mais il avait déjà marqué un penalty important, c'était à Mestalla. Bon voilà, Valence, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de fil directeur, ça joue, il y a quasiment pas. La première mi-temps était pas trop mal, sans casser des briques, mais bon, à deuxième période, la bonne nouvelle, c'est les retours de Cisco Coquelin et de Rodrigo Moreno. Puisqu'il y a la Ligue des Champions qui arrive mardi devant le public en délire de Mestalla, parce que le match sera à huis clos. Ça va faire parler parce que la semaine d'après il y a les Falias. Donc c'est juste après quoi.
C'est pas le derby aussi.
C'est à partir de 16. Ouais, le 14 c'est le derby et le 16 c'est les Falias. Donc en termes de concentration de monde, les Falias c'est 1 million de personnes quoi. Peuvent venir, donc peut-être que parce que quand c'est devenu au patrimoine de l'UNESCO, c'était 1 million de personnes, c'était il y a 2-3 ans. En gros, tu vas avoir 700-800 000 personnes dans les rues, quoi. Donc, si vous avez déjà vécu les Falias, vous savez un petit peu à quoi ça va ressembler, le nombre de personnes qui peuvent s'agglutiner à l'ayuntamiento pour les mascletas et tout ça, quoi. D'ailleurs, c'est un peu ridicule parce que si vous êtes italien, vous avez réservé depuis décembre vos places pour aller à Valence, sachant qu'il y a une ligne directe. Hein. Un Ryanair, tu peux aller au Mascletà, c'est-à-dire, c'est un truc de pétard les Mascletà, c'est à 14h, tu peux aller au Mascletà, au feu d'artifice, etc., mais tu peux pas aller au match, quoi. Donc, en termes de sécurité, sanitaire, c'est quand même très très surprenant. Donc bon. Voilà. Et je pense que c'est la seule chose qu'on puisse expliquer sur Valence à l'heure actuelle, parce que le virus, il est aussi dans l'équipe, quoi.
Il y a un problème.
Catastrophe. On va pas s'attarder parce que non, mais chaque semaine c'est la même chose. On se répète, hein, mais bon, c'est la DES n'est pas un entraîneur de football. Et c'est un géo. C'est-à-dire à partir du moment où il a eu besoin de lui tactiquement, il est paumé. Il fait des changements, mais qui sont toujours proches du catastrophique. Après, il y peut rien, tu vois. Si tu fais rentrer Guedes et qu'il pige rien au foot, c'est pas son, tu vois, c'est pas sa faute non plus, quoi. Mais voilà, c'est très très poussif. Il n'y a plus de défense centrale parce qu'en plus Mangala s'est blessé. Donc voilà, les joueurs et c'est la DES ne peuvent plus voir Murti en peinture, notamment par rapport à ce qui se passe par rapport à la Ligue des Champions, puisque le club n'a absolument pas bougé. Voilà, subi les choses comme d'habitude, quoi. Donc voilà, c'est plus intéressant en dehors du terrain que sur le terrain. Et bon, ben là, mardi soir, c'est l'exploit ou rien, et devant des tribunes vides. Donc, je pense qu'il y a tout pour que ça réussisse.
Et pour aborder dans ton sens, ils ont passé le bolavolage négatif. Ils ont encaissé 38 buts, ils en ont marqué 38. Ils ont encaissé 39 buts.
Défensivement, c'est une catastrophe. Ouais. Mais aussi, tu es aussi dépendant des blessures.
Oui, mais on va dire qu'il y a quand même un cadre tactique qui n'est plus posé. Et on va dire qu'on est passé d'un truc très strict avec Marcelino à un truc très lâche avec Celades et ça se paye. Parce que même si t'as un bon effectif, blessure, pas blessure, c'est sûr que ça... Mais on va dire qu'un cadre strict ou entre rigide permet à des joueurs peut-être moins bons de performer ou d'avoir des consignes claires qui leur permettent d'avoir un meilleur rendu collectif ou meilleur rendu sur le terrain. Quand tu parles de Guedes, mais Guedes, quand tu le cadres pas, tu lui donnes pas une, deux, trois consignes à suivre, c'est un chien fou et tu le perds complètement, il court n'importe où, n'importe comment.
Non mais Ben, ça fait deux ans qu'il fait n'importe quoi. Soit il est blessé, soit il fait n'importe quoi.
Il a des problèmes, mais je pense aussi que le cadre et l'écosystème n'aident pas beaucoup.
Non, c'est évident que c'est une catastrophe et justement on se demandait quand s'arrêterait l'effet Marcelino pour Celades. Ben voilà, ça fait plusieurs semaines que ça s'étiole. Tu fais illusion contre le Barça parce que c'est le Barça et que l'équipe a toujours ce ressort psychologique pour y parvenir. Mais quand tu vois la finale de Copa, par exemple, je vois pas en quoi Valence n'avait pas sa place cette année en finale. Déjà, ne pas battre Grenade, bon, voilà.
Ouais, c'est... Grenade est à 4 points.
Mais tu vois, mais la différence, c'est que Grenade, par exemple, il joue au foot. Ouais. Et au bout d'un moment, ça a basculé la pièce est tombé du bon côté parce qu'ils l'ont cherché, quoi. Parce qu'on n'avait absolument pas fait Valence et en quart, ça a été payé cash. Donc voilà, 42 points. Au moins, tu peux dire que t'es maintenu. Voilà. Puis t'es qu'à 5 points à la troisième place. Hein. Je veux dire, cette Liga est tellement catastrophique année que
ça peut vaciller des goupillés comme Villarreal. Ouais,
tu remontes contre Atalanta. Et ce sera pas du tout un ressort tactique, ce sera uniquement un ressort psychologique. Hein. C'est le seul moyen. Tu gagnes le derby.
Tu vas où après?
T'as 45.
Et en face, dès que tu vas avoir, j'ai pas le calendrier en tête de Valence, mais dès que tu vas avoir un duel tactique, parce qu'à mon avis, il doit rester quelques matchs intéressants à jouer à Valence. Mais
t'as notamment d'ici une quinzaine.
T'as Valence, t'as Eibar, tu joues l'Atlético, tu joues Grenade, tu joues Séville en fin de saison. Moi, je pense que même si tu peux avoir un ressort, un dernier encore une fois, un bon coup du sort, parce que même si l'Evente, ça reste un club particulier à suivre, va falloir se les coltiner à Mestalla.
Mais justement, tu fais bien en parler de l'Evente. On a aussi parlé de Grenade. C'était le match du milieu de tableau, évidemment, match nul. Ça peut pas se terminer autrement. Le spécialiste de Paco Lopez, qu'as-tu pensé de ce match?
C'est un match, c'est l'autre facette de l'Evente de Paco Lopez. C'est un match où l'Evente et Paco Lopez ont essayé de mettre un peu plus de densité au milieu avec un double pivot Radoya Vukcevic. Ça a été peu fameux. Campagna dans un rôle de 8 ailier. Ça a vraiment pas généré beaucoup. Le but de Roger est très beau.
Bien construit, ouais.
Tiens, d'ailleurs. Je te coupe, mais j'ai vu un post sur les réseaux sociaux de la Liga. Roger fait partie des
meilleurs buteurs espagnols.
Des meilleurs, ouais, fait partie des meilleurs buteurs espagnols de la Liga avec Gerard Moreno et Lucas Pérez. Question à 1000 euros. Est-ce que il a sa chance de rentrer à l'Euro?
Non, c'était qui la semaine dernière l'attaquant?
Lucas Pérez.
Exactement. Donc,
Lucas Pérez.
Roger Marti.
C'est marrant parce que justement j'ai vu le truc, je fais putain mais c'est incroyable, j'ai pas réalisé que Roger Marti avait marqué autant de buts. Ce qui nous permet de rappeler quand même que Borja Mayoral, les résultats comparés à la Relojita, tout ça, ça sert strictement à rien. Tout est remis à zéro une fois qu'on passe dès qu'on passe un petit peu. Comment?
J'y crois encore à Borja. En plus, il a 5 buts, une passe décisive, mais je sais pas.
J'y crois autant qu'à Abel Ruiz.
Oh, le pauvre.
Ah ouais.
Voilà. Non, mais...
Le pauvre. Mais par contre, pour répondre à ta question, Gerard Moreno est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fort. On va en parler sûrement de ce match avec Villarreal, mais...
Ah, je suis d'accord, mais est-ce qu'il est suffisamment buteur?
Il sait tout faire, il a marqué autant de buts, il fait plus de passes, il sait jouer sur un côté, il sait superbement attaquer la zone entre la surface, le quart de rond, enfin le demi-cercle devant la surface. Il sait faire des passes, il sait se rendre intéressant collectivement. Dans la surface, il est bon parce que son but qu'il marque contre le Ganes, même si ça perd, il est super parce qu'il est au début de l'action, il met une superbe tête pour marquer. Non, Gerard Moreno, il est loin devant et Marti, c'est un joueur de surface, c'est beaucoup plus travailleur et beaucoup plus besogneux, on peut utiliser plein de termes, mais pour l'équipe d'Espagne, je pense pas qu'il rentre dans le moule comme il faut, et Lucas Pérez, si on cherche un joueur qui sait un peu faire la jonction entre les deux, il est beaucoup plus cohérent et intéressant que Roger Marti, même si j'adore Roger Marti.
Passons à la page maintien. On commence par l'équipe qui file. Alors ça, c'est on a discuté un petit peu avec Elton avant d'enregistrer. Moi, je les vois gros comme un camion dans la charrette. C'est le Real Valladolid qui a pris une rousse à domicile contre l'Athletic, heureux finaliste de la Copa. Oui, je sais que ça fait du mal. Ça fait du mal. Elton n'était pas d'accord avec moi, mais alors je les sens, mais pas du tout, du tout.
C'est dommage parce que ce match-là face à l'Athletic, ils doivent le perdre jamais. Vraiment, ils doivent pas le perdre.
Tu dis ça parce que t'as Gonzalez qui a dit ça reflète pas le match.
Mais en plus, il frappe 20 fois, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Ils n'encadrent que deux, mais Unal, il doit avoir
il a du sang sur les mains.
il doit avoir vraiment 5 grosses occasions, vraiment des têtes, des frappes. Sandro, il a son but, il est beau, mais Sandro, il a aussi plein de fois, il frappe alors qu'il doit pas frapper. Et en plus, le pire, c'est quand il revient à 2-1, tu te dis, ça va vaciller, ça va basculer, ça va le faire. Et Salisu, se fait une tête. Il est trop serein, en fait. Ils ont vraiment été peu mis en danger en deuxième mi-temps. Il fait une tête en retrait, vraiment peu appuyé, mais il se dit, bon, Iñaki va pas faire le pressing, ça va le faire pour Masip. Iñaki fait le pressing, Masip sort un peu à l'arrache et ça fait 3-1. Et le match, tu dois pas le perdre parce que c'est au contraire. Tu as 2-1, tu domines, tu as plus de situations, tu as plus d'occasions. Tu te dis vraiment, déjà, perdre 2-0, c'est dur parce que tu prends un but d'Unai Lopez d'entrée, coup de fusil, coup de canon, troisième minute sur coup franc. Tu te dis, bon, tu te remets la tête à l'endroit, tu génères des situations, tu génères d'occasions, tu prends un but de Raúl García de la tête à la 35e, il me semble. Déjà, tu as la tête dans le saut, mais tu lâches pas. Tu reviens à 2-1 et tu prends un but sur une erreur défensive. Et en plus, après, le quatrième, c'est encore une erreur de Salisu qui lit mal une trajectoire et qui la remet pour Cordoba, il me semble. Inigo Cordoba, ouais, c'est ça. Et qui canarde. Mais vraiment, ce match-là, ils ont arraché plein de résultats qu'ils auraient jamais dû peut-être arracher le Real Valladolid, mais ce résultat-là, il est vraiment frustrant et il reflète pas du tout le rendu du match. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est que ça reflète par contre ce que disait le directeur général du club à Forbes, c'est une interview qui est sortie la semaine dernière, il me semble. Il expliquait que c'était une équipe qui était compliquée à battre, mais qui par contre avait vraiment beaucoup de mal à marquer. Et on l'a vu. Là, ils doivent marquer 100 fois, ils n'y arrivent pas. L'absence de Guardiola a pesé. Mais c'est vraiment frustrant. Mais après, voilà, ils sont dans une mauvaise logique. À domicile, ils ont gagné un match sur les 8 ou 10 derniers rencontres. C'est un mauvais rythme, mais Sergio González travaille dans une certaine sérénité. Il a quand même un bon groupe. Je pense que dans la logique qu'il y a derrière, je serais plus inquiet pour un Eibar ou un Celta Vigo que pour Valladolid à l'heure actuelle. Mais ils vont pas y être.
Il y a le Osasuna qui a quasiment assuré son maintien, ouais, au Sadar en battant l'Espagnol. Alors là aussi, le foot va très vite. On en parlait la semaine dernière. On pensait que les Pelicos étaient capables de se sortir de l'ornière, et là en fait ça sent le sapin, et c'est peut-être il doit plus rester beaucoup de clous au cercueil pour les hommes d'Abelardo.
Ouais, exactement. La semaine dernière on disait qu'il y avait la qualité brute combinée au fait qu'Abelardo était comme coutumier du fait avec Riron, avec Alaves, et que moi je voyais notamment l'Espagnol s'en sortir, mais là force est de constater que les noms ne font pas tout. C'est-à-dire
mais
que quand
je te coupe Elton, mais tu prends les effectifs hier de Osasuna. Alors Osasuna, d'un côté, je suis en train de faire la liste de tous les joueurs qui sont, tu sais, que tu peux prendre au mercato comme bonne pioche. Et l'autre côté, tu te dis, mais l'Espagnol, mais comment ils peuvent être derniers avec l'équipe qu'ils ont?
En termes de
talent, c'est un truc de fou. Et encore, Diego Lopez, il sort un très très gros match.
C'est un mauvais été, mais ils ont vraiment vécu
même au mercato. Attends, ils recrutent De Thomas, ils recrutent Mbarba, ils recrutent Cabrera. Attends, c'est des trucs, tu joues l'Europe avec des mecs comme ça.
Exactement.
Mais tu prends Pedro, ça, Melendo, Rolo.
Pour autant, on voit que c'est une équipe,
Mais après, vraiment, le rendu ce week-end, il était vraiment, vraiment, vraiment désastreux. Ils sont tombés dans le piège, ils ont pas réussi à se relever. De Thomas, il a, je pense, pas eu une seule situation intéressante. Et le piège se renferme. Tu prends encore un rouge. Ça doit être leur troisième ou quatrième sur les derniers matchs. Et après, voilà, c'est fini. Tu peux plus rien faire d'autre.
Un petit mot sur un de mes chouchous de la Liga, Roberto Torres.
Ouais. Il a dit qu'il voudrait être une légende de l'Osasuna. On est bien parti, hein. Il fait encore un super match. Il marque une bonne Panenka parce qu'il faut la tenter. La Panenka à 0-0 à domicile. Alors que tu es dans une période vraiment vraiment compliquée, et il fait vraiment un super travail. Donc on va dire que Osasuna a peut-être cette force qu'a pas l'espagnol, c'est voilà, ils ont une culture club, une culture famille, une culture le froid, le nord. Et l'espagnol là, ils ont, même s'ils ont changé du monde, mais on est sur un club qui est dans une urgence, qui a changé beaucoup. Ils ont usé trois coachs. Enfin, c'est Abelardo, c'est le troisième coach de la saison.
Exactement.
Ils ont bazardé la Ligue Europa, alors je pense que ça leur a mis, que tu le veuilles ou non, bazarder une compétition, même si tu, au retour, ils ont fait un peu illusion, ça te mine un peu dans la tête. Le match contre l'Atleti, ils ont peut-être mis beaucoup d'énergie, donc ils ont décompensé par la suite. On l'a peut-être laissé couler un peu plus, je sais pas. Non, je sais pas. Moi, j'ai du mal à, en plus, dans le même temps, moi, je voyais les Ganes y aller parce que, Aguirre prenait de mauvaises décisions. Pour moi, ses approches étaient décevantes. Ils perdaient leurs deux meilleurs attaquants. Et là, ils gagnent un peu miraculeusement contre Villarreal. Quand l'Espagnol perd un match, je vais pas dire facile, mais plus abordable. Donc, c'est vraiment difficile à suivre.
L'exploit de la journée, justement, tu viens d'en parler, c'est signé Leganés, qui a battu Villarreal à Salamica. Ça relance complètement les Pepinoles, qui reviennent à 3 points du Celta, 17e. Et s'ils s'en sortaient finalement avec Aguirre?
Ah, ce serait pas la première fois avec Aguirre. Hein.
Ouais.
Notamment avec l'Espagnol. Et ouais, mais c'est la performance à saluer. Et c'est peut-être la principale information avec Barça leader, c'est-à-dire les Ganes qui l'emportent. Quand tu vois le premier but de Moreno, tu dis qu'ils sont partis pour une soirée compliquée. Mais après, tu vois qu'ils arrivent à réagir très rapidement avec Carrillo qui touche le poteau. Et après, derrière, en deuxième mi-temps, il y a eu un one-man show de Oscar Rodriguez. C'est-à-dire, le but qu'il met, il est venu d'ailleurs. Et on a vu Villarreal qui est dans la continuité de ce qu'ils font depuis ces dernières semaines, à savoir que c'est très difficile de dégager quelque chose dans la continuité. À savoir, dans le jeu, c'est très, très plat. Il y a très peu d'idées. Et en face, on a Leganés qui a de la suite dans ses idées, justement, et qui est allé chercher ce deuxième but, qui est fort mérité, quand bien même c'était sur penalty. Donc au final, on a Leganés qui se repasse dans la perspective du maintien, alors que Villarreal dit certainement adieu aux courses européennes, à la qualification.
Par contre, il va falloir se poser une vraie question sur Aguirre, parce que Oscar Garcia avait déjà sorti un coup de chapeau face à la Real Sociedad il y a début février, avec ce magnifique coup franc en fin de match pour arracher une victoire 2-1. Qui était encore un résultat inespéré, mais par la suite il avait fait preuve de conservatisme, il avait fait des mauvais choix et ils avaient enchaîné 4 matchs sans victoire. Donc là, va falloir capitaliser sur ce résultat, vouloir jouer au football et ne pas vouloir revenir à cette logique d'attente et de dire voilà, je débute les matchs en ayant gagné un point, si je peux en gagner 3 c'est bien, mais si je peux en prendre 15 c'est mieux. C'est un vrai questionnement parce que, comme tu l'as dit, Ethan, ils ont fait vraiment preuve de résilience en première période face à la Real Sociedad, en faisant le dos rond, en essayant d'exister, même s'il y avait des vagues qui arrivaient, même si c'était des vagues qui étaient un peu diffuses et mal organisées collectivement, mais il y avait vraiment des vagues de Villarreal qui venaient. Ils ont été plus cohérents en deuxième, mais il va falloir vraiment arriver à capitaliser et à générer une petite série. Parce que le Celta, Eibar ou même Mallorca, ils vont pas faire, même si Mallorca a gagné, mais voilà, va falloir capitaliser parce que tu veux pas encore espérer un concours de circonstances pour gagner, quoi.
Le choc du bas de tableau opposé Eibar à Mallorca à Ipurua, et c'est l'équipe baléare qui a réalisé le très gros coup en battant les Almelos au Pays Basque. C'est un gros coup d'arrêt après la victoire contre Levante pour Eibar la semaine dernière. Ben, on parle souvent des séries d'Eibar qui, à un moment donné dans la saison, parvient à gratter beaucoup de points en un temps réduit. Là, après la victoire contre Levante, on pensait qu'il s'était enfin enclenché. Et puis, en fait, non, pas du tout. Il y a eu un très, très gros calage qui puisait contre un adversaire direct. Là aussi, quand on compare les courbes de progression et même la psychologie des équipes, ça sent pas très très bon pour Eibar.
Je vais pas faire de plan sur la comète parce que Eibar reste un club très particulier, mais c'est inquiétant. Et encore une fois, Eibar sans son pressing, c'est quand même difficile à imaginer. Ils ont toujours un très bon pressing, mais ils ont plus les joueurs pour le tenir sur une longue période. Et tu peux avoir ce genre de match où en face c'est cohérent, c'est rempli de talent. Et ça va exploiter tes petites erreurs, tes pertes de balles, tes sorties hasardeuses, et ça va te faire mal à chaque fois. Et Eibar n'a plus n'a plus, en tout cas n'a plus sur la, une durée assez longue, de la ressource mentale pour enchaîner, tuer les matchs, marquer. Et c'est inquiétant, je sais pas, parce que derrière, ça quand même, ça avance timidement. Il pourrait être dans une situation plus inquiétante, mais c'est sûr qu'ils sont pas, ils ont pas fait la différence comme à Alavés, même si Alavés n'est pas sauvé. Mais ils ont pas ce petit matelas de points qui va leur permettre de d'être serein pour la, les derniers matchs. Quand Mallorca va peut-être réussir ce qu'il n'avait pas réussi à faire Huesca la saison dernière, mais voilà, ils ont un gros effectif, ils ont recruté beaucoup de monde, ils ont énormément de talent à tous les postes, parce que quand tu abordes le maintien en ayant des mecs comme Cucho Hernandez, comme Takekubo, comme je suis en train de réfléchir à un mec, il y a Lumor qui est pas mauvais, il y a Boudimir qui est pas mauvais, Babaraman qui est bon aussi, tu as quand même une certaine sérénité. Et là, ils sont dans une dynamique intéressante. Ils ont pris des points à l'extérieur, alors que c'était leur problème au Betis 3-3. Là, ils gagnent, ils marquent encore 2-1. Ils prennent des points à l'extérieur, même s'ils ont perdu entre temps à la maison contre Retafe. Ils sont dans une logique de bon tempo. En plus de ça, voilà les paris qu'ils avaient fait en début de saison, parce qu'ils ont pris Cucho qui était blessé. Il a manqué toute la première partie de saison. Takekubo, tu prends, mais tu sais très bien qu'il va falloir lui apprendre. À souffrir entre guillemets, mais voilà, jouer le maintien, avoir peu le ballon mais devoir être létal sur les peu de situations que tu vas avoir, et là c'est en train de se goupiller de la meilleure des façons possibles, et donc tu te relances un peu une course qui semblait un peu finie la semaine dernière, donc c'est intéressant.
Elton, pour clôturer cette première partie,
pour revenir sur la performance, j'ai vraiment bien aimé ce qu'a fait Moreno, notamment au niveau de la disposition tactique. Sur le terrain, que ce soit Kubo ou Rodriguez, c'était très intéressant, parce qu'on sait que sur le terrain d'Ipurua, tu as besoin d'avoir une assise technique pour faire remonter les ballons. Et d'ailleurs, le but de Kubo est très symbolique, c'est ce qui manquait à Mallorca ces dernières semaines, c'est-à-dire à l'extérieur, cette capacité à rester haut sur le terrain, avoir des récupérations rapides pour te permettre de te mettre en orbite, Kubo qui était capable de faire la différence sur les... Donc au final, première victoire à l'extérieur de Mallorca à l'extérieur, c'était je crois la première victoire depuis Grenade en 2013, donc ça commence à remonter. Moi je disais que Mallorca avait besoin d'engranger des victoires à l'extérieur, parce que sans ça tu peux pas te maintenir, et tu avais un rythme qui n'était pas acceptable pour un candidat qui espère au maintien. C'est 5 points pris à l'extérieur, ça commence à s'améliorer avec le match nul au Betis, la victoire à Eibar, qui sont pas des terrains très facile, donc que ça continue ainsi. Bon, en tout cas, bon match, et un match très important pour Mallorca.
Et Eibar qui met fin à 4 matchs avec sans défaite à domicile, et c'est toujours compliqué quand tu perds des points à domicile quand tu luttes pour le maintien.
Et pour le coup, je suis très inquiet pour Eibar, parce qu'on en parlait avec FM juste avant l'émission, mais le calendrier à venir, c'est-à-dire que demain, tu vas affronter la Real pour le derby, tu affrontes le Real vendredi au Bernabéu, tu vas affronter Bilbao juste avant la trêve, tu vas affronter Valence après la trêve, donc on peut raisonnablement penser que tu es sur un calendrier qui est très compliqué. Alors dans l'absolu, derrière, ça avance pas vite, mais quand même, j'ai envie de voir un Celta Vigo qui va retrouver Iago Aspas d'ici quelques jours, ça risque de passer devant, et derrière tout est ouvert.
C'est la deuxième partie de ce Folia Liga podcast. Nous étions à Mallorca, nous y restons. Le promu essaie de se sauver avec une vraie ambition dans le jeu et la continuité, puisque Vicente Moreno Pérez est en place depuis la Segunda B avec un succès certain. Alors devinez qui a bien pu me souffler cette idée de focus pour ce podcast du lundi.
C'est Ben.
Ah bah oui, forcément, parce que j'étais vraiment pas parti là-dessus. Et il me fait, on fait un truc sur Mallorca, chez Banco, club en plus que je connais bien, j'ai visité les installations il y a 2 ans, donc je connais plutôt pas mal l'environnement. Et justement, il y avait déjà à l'époque Vicente Moreno Pérez, et l'équipe était en Segunda B, donc 3e division, et c'était encore très très loin du retour en Liga, et là on est encore même très loin des années 90 et de la meilleure période de l'histoire du club. Mais il y a ce stade, il y a Sandmoich, il y a de très bonnes installations, et puis c'est vrai il y a des joueurs de ballon dans cette équipe, et même si c'est compliqué de se maintenir, ça reste quand même ambitieux pour une équipe qui a un tel budget.
Bah ouais, parce que tu prends, ils ont même Alejandro Pozzo qui est un ancien de Séville, Séville. Il a été prêté, il est prêté, qui est milieu de terrain, qui était très bon à, il me semble que c'était à Granada la saison dernière. Là, il joue latéral droit et il est très bon. Mais voilà,
il est d'ailleurs passeur sur le deuxième but.
Ouais. Et ils ont vraiment cette logique-là d'avoir des joueurs un peu plus rugueux avec Valiant. Je suis pas sûr. Rayo, Salva Sevilla, ils ont des joueurs qui ont un peu plus de vécu, un peu plus de bouteilles, un peu plus de et des joueurs un peu plus joueurs à la manière de ce que voulait faire, ce qu'avait essayé de faire OSK la semaine dernière, parce que j'aime bien le parallèle. Ils avaient David De Ferreiro, ils avaient Alex Gallard, ils avaient Cucho, ils avaient Chimi Avidia, ils avaient pas mal de joueurs, ils avaient pris Juan Piano.
Melero. Ils avaient Melero.
Ils avaient Melero aussi. Ils avaient quand même, on avait cette logique-là d'avoir quand même des joueurs un peu pour la bagarre ou un peu quand ça devenait un peu compliqué, mais aussi des joueurs pour jouer au ballon, pour se sortir des pressings, pour pouvoir tenir le ballon, pour pouvoir, tu sais que quand tu vas jouer le maintien, tu vas avoir quand même peu de séquences exploitables sur de longues périodes. Mais ces séquences exploitables, faut quand même bien les exploiter pour marquer. Et Mallorca, Mallorca n'est pas, ne renie pas le jeu ou n'est pas dans une logique conservatrice. Même si Vicente Moreno, n'hésite pas à jouer en défense à 3, à lâcher le cuir quand il faut. Il a une approche assez fluide qui lui permet quand même d'éviter de se faire trop surprendre à défaut et devenir trop facilement lisible, parce que c'est aussi le problème quand tu joues le maintien avec une certaine idée de jeu qui peut te permettre de t'en sortir, mais qui te rend aussi vulnérable face à des équipes qui seront plus facilement adaptables face à toi et qui peuvent te prendre à défaut. Donc même si c'est pas réussi, je trouve que ça soit intéressant que ce club qui est quand même l'invité surprise de cette saison en Liga, y croit, soit dans le bon tempo, soit pas distancé, n'est pas cédé à la panique, n'est pas cédé à on change de coach, on change n'importe quoi. On a peur. Non, voilà. On sait qu'on allait souffrir, que le maintien allait sûrement s'acquérir en toute fin de saison. Et du coup, on a accepté cet état de fait. Et on fait ce qu'il faut pour que ça se passe le mieux possible. Et le parallèle tient avec Huesca dans la logique de recrutement, de cette logique de recruter énormément de monde. Ils ont un effectif qui est quand même très, très vaste. Avec des joueurs en prêt, des joueurs qui sont arrivés en fin de contrat, des joueurs qui sont les piochés à droite à gauche pour peu cher. Et une logique, quand je peux dire ça, de patience et de passer de l'apathie, comme l'a fait Valladolid la semaine dernière, ils ont acquis le maintien en fin de championnat, où voilà, on fait confiance au coach en place, on construit quelque chose qui va dépasser le maintien ou pas le maintien, mais voilà, on construit un effectif qui doit permettre de, même si on descend, de pouvoir jouer le haut de tableau par la suite et pas tout mettre les hommes au même panier, donc c'est intéressant. Parce que Vicente Moreno était quand même un très bon coach. Comme tu l'as dit, il passe de Segunda B à Segunda et de Segunda à Liga en 3 ans, enfin, en 2 saisons. Donc c'est vraiment intéressant. Et là, ils vont jouer contre le Barça et ça peut être à domicile en plus. Et ça peut être le match un peu tournant ou un peu qui peut valider le bon retour en forme du club et ça peut être intéressant.
Elton,
je suis assez d'accord là-dessus. L'objectif, c'est de s'inscrire dans la durée. Revenir en Liga n'est pas forcément une finalité, c'est vraiment se pérenniser. Et on voit bien que de tous les candidats au maintien, bon, j'enlève Eibar de Mendy Eibar, mais tu vois bien que tous les autres ont changé de coach en cours de saison, alors que Mallorca a pu capitaliser sur cette forme de stabilité. Tu sais que l'été dernier, tu as eu une quinzaine de joueurs qui sont arrivés, donc la mayonnaise devait prendre. À domicile, ils n'ont pas été ridicules, loin de là, ils pouvaient capitaliser sur des bonnes performances. Justement à domicile, à l'extérieur c'était davantage compliqué, mais j'aime à penser que le temps allait faire son œuvre et qu'on allait avoir petit à petit un Mallorca qui allait corriger ses défauts. Bon, mieux vaut tard que jamais dans l'absolu, mais on voit bien que c'est une équipe qui a de la qualité pour se maintenir.
Mais on fait pas défaut, ils ont bien battu le Real Madrid dans le début de saison.
Ouais, à domicile.
Ouais, c'est ça, oui.
Exactement. C'est ça, à San Mauch, hein, bien sûr.
Ouais. Mais là, mais en plus tu te dis bon, compter en fin de saison pour te maintenir sur des joueurs comme Budimir, comme Cucho Hernandez, comme Pozzo ou comme Takekubo, te dis t'as quand même pire quoi en face. Il y a peu d'effectifs ou d'équipes qui vont qui louent pour le maintien actuellement, qui peuvent se targuer d'avoir une telle puissance de frappe et une telle capacité, une telle qualité sur le banc ou sur le terrain.
Oui, puis il y a Baba, il y a Lago Junior aussi.
Voilà,
encore ça, et en plus, il y a même Dani Rodriguez qui est très bon.
Oui.
Mais voilà. Non,
ah, justement, Elton voulait parler de Dani Rodriguez.
Ah. Oui, c'est ça, mais c'est ce que je disais juste avant l'émission, à savoir qu'il était très important, il a une activité qui est très importante, notamment pour le pressing haut, notamment du côté de Sean White. On voit bien que c'est un joueur qui est capable voilà, de tirer coup de charité à l'image de ce qu'il a fait du côté d'Eibar. Donc moi, j'ai mis à penser que je voulais le voir davantage dans un rôle plus axial, parce que sur un côté, il est intéressant, mais pour avoir de la continuité dans le jeu, notamment à l'extérieur, c'était quand même mieux. Et là, on a vu une partie de ce que je voulais voir, à savoir avec un milieu Kubo Rodriguez, on va quand même mieux du côté de Mallorca.
C'est sûr. Mais vraiment, et en plus, quand tu compares à Valladolid, quand tu regardes le banc, tu te dis, bon, il y a Ben Arfa, et puis, l'effectif, il est quand même pas monstrueux.
Déjà, t'es senti de le compter dans l'effectif.
Ouais, il est rentré ce week-end. Mais même à Ibar, tu te dis, tu regardes le banc, tu te dis, bon, Charles Dias, il vient d'accorder un prêt à son fils, qu'est-ce qu'on fait? Mais voilà, non, pas Charles Dias, Kiké, tu te dis, bon, non, voilà, c'est niveau qualité, ils peuvent se targuer d'avoir un bon effectif et de se dire, dans ce sprint final, hormis le Celta Vigo, et peut-être l'Espagnol, mais ils sont dans une logique très très inquiétante, ils ont peut-être l'un des effectifs les plus cohérents et les plus consistants.
Elton?
Oui, il y a eu une petite interférence, mais oui, j'abonde dans ce que dit Ben, à savoir que au niveau effectif, enfin sur le secteur offensif, ils ont meilleur que certains adversaires, certains concurrents directs, et c'est très important. Quand tu as un Boudimir qui devrait dépasser la barre des 10 buts, on peut compter sur un secteur offensif, t'as Kubo qui monte en puissance, tu peux compter sur Salva Sevilla au milieu qui n'était pas là ce week-end, mais qui t'apporte énormément au milieu de terrain, Dani Rodriguez. La petite difficulté, c'est davantage derrière, où tu es capable de parer ça avec un système à trois défenseurs centraux, donc oui, c'est très intéressant.
Et ils vont se maintenir, ils vont le faire, j'y crois.
Bah, pour le coup, moi j'étais sceptique. Là où j'étais sceptique, c'était sur la capacité à engranger les points à l'extérieur. Mais là, si tu commences à régler ce problème, pour moi, tu devrais te maintenir. Mais je dis attention quand même.
Mais en tout cas, ils sont dans une logique et dans une dynamique qui est intéressante et qui moi m'interroge, me disent bon, c'est intéressant, ils ont pris Ki Sung-yong, le coréen de Swansea
exactement, ouais.
Ouais, ils ont encore Trashovski qui a été très bon à Palerme les saisons précédentes. Donc moi je pense que en tout cas dans la manière d'appréhender cette course, ils sont peut-être dans une posture intéressante parce que ils ont la dynamique de dire on est relégable mais on n'est pas très loin, on a pris des points intéressants face à des grosses équipes, quand voilà Valladolid ça commence à compter ce qui reste d'avance, quand l'Espagnol sont dans une situation ultra urgente, quand le Celta tarde à amorcer une bonne dynamique, donc ils sont en tout cas dans une bonne disposition pour performer. Et voilà, arrive un moment, ça peut vaciller sur n'importe quoi, ils sont pas à l'abri d'une blessure, d'une erreur, d'un résultat qui tombe, d'une pièce qui tombe du mauvais côté. Donc voilà, mais en tout cas, moi, des candidats pour le maintien à l'heure actuelle, je les mets comme étant potentiellement le plus intéressant et le plus susceptible de réussir une belle remontée.
Est-ce que c'est pas aussi la réussite d'un coach qui vient du football modeste, encore une fois, puisque il est passé par Jerez Vicente Moreno Pérez et Tarragone avant d'arriver à Mallorca et à réussir, quand on connaît la difficulté des petites divisions en Espagne, quand on réussit à faire coup sur coup monter de troisième en deuxième et de deuxième en première, c'est quand même colossal.
Surtout coacher le Nastic, c'est quand même colossal, quoi. Le mec, il avait du courage, quoi.
Oui, ça, le Nastic, alors ils ont un beau stade, mais c'est tout, hein. Clairement, c'est peut-être un des clubs les plus bordéliques d'Espagne, très très haut la main, j'ai envie de dire.
Mais c'est très important de faire le parallèle avec justement les Garitano, les Bordalas et même les Kike Setién qui viennent des divisions inférieures, parce que ce qui ressort quand on voit de Mallorca, c'est que c'est pas tant la forme qui est vraiment importante, mais le fond. C'est-à-dire que tu peux changer de système et il y a une idée commune qui reste à travers les systèmes-là, et on voit vraiment un Mallorca qui est notamment dans cette idée d'aller, notamment à domicile, d'aller chercher son adversaire haut, de lui empêcher d'avoir du temps et de l'espace. C'est là où on voit qu'il y a vraiment une sensibilité tactique qui y ressort du Mallorca de Moreno.
Bien sûr. Et en plus, c'est vraiment cette logique-là de, on oppose souvent les joueurs, les coachs qui sont, qui veulent que le résultat et qui tardent à mettre en place un fond de jeu, une idée de jeu, une cause commune qui va permettre de souder un peu les joueurs. Mais on le voit encore avec Mallorca, même avec Eibar. Avoir une idée, une volonté et surtout que les joueurs soient conscients de ce qu'ils doivent faire, de pourquoi ils le font. On va presser haut, on va essayer de réduire les espaces, on va essayer de récupérer les ballons rapidement. On le voit à Retafé. Ça permet à ton effectif de ne pas douter et de pas tomber dans une sinistrose incapable à inverser dès que tu vas enchaîner 3 ou 4 défaites ou 3 ou 4 mauvais résultats. On est sur une logique de travail à long terme et de se dire la finalité ou la réalité actuelle n'est pas, ce sera pas celle de demain. Et du coup, on peut faire le dos rond, on continue de travailler pour se dire cette idée qu'on essaie de mettre en place va nous permettre de nous relancer. On l'a vu, Mallorca, ils ont vraiment vécu des saisons, des périodes particulières cette saison. Ils y croient encore, ils sont encore là. Eibar, même s'ils n'ont pas vacillé, ils ont quand même cette logique-là qui leur met de pas tomber, alors que c'est un club qui aurait pu vraiment, vraiment finir plus bas à cette période de la saison. Et des clubs qui n'ont pas cette logique-là, tu prends l'Espagnol ou l'Eganés, même si l'Eganés, c'est vrai qu'ils ont un peu, mais il y a eu des problèmes. Ils sont très bas et ils sont un peu dans une logique où c'est inquiétant, quoi.
C'est l'heure de vous mouiller avant de refermer ce podcast. Est-ce que Mallorca va s'en sortir? Et s'il s'en sort, qui va prendre la place dans la charrette? Nous sommes là, au soir de la 27e journée de championnat.
Moi, je les vois. Je les vois ne pas tomber. Et je vois tomber le Celta. Je vois tomber le Celta et je vois les Ganes finir très, 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 très près d'Eibar.
Moi, de mon côté, je vois tomber Eibar.
Oh là là. Tu vas nous poignarder, Elton.
Ah, tu veux nous plomber la soirée.
Ah non, mais pour moi, le calendrier à venir, pour moi, c'est très, très compliqué. Derrière, si tu n'arrives pas à prendre des points, c'est très difficile de changer de dynamique au mois d'avril. Au mois d'avril, on sait qu'on est sur le mois de la peur, on est sur le mois de la vérité. Et quand tu es une équipe en crise, moi, ça me paraît très compliqué. Donc, je vois Eibar, moi.
Et surtout que Mallorca a une bonne période parce qu'ils vont recevoir à domicile, hormis le Barça, ils vont jouer les Ganes. Ils vont jouer le Celta à la maison, Levante et Granada.
Donc en plus.
Donc tu te dis, t'as à la maison où tu es soi-disant, théoriquement le plus fort, tu vas jouer tes finales et si tu gagnes les finales, tu seras dans une bonne logique, quoi. Parce qu'après, par contre, ils ont que des gros matchs à l'extérieur. Ils vont à Villarreal, ils vont à l'Athletic, ils vont à l'Atleti, ils vont à Séville et ils vont à l'Osasuna.
C'est la fin de ce Folia Liga podcast. Merci à Benjamin Brochet-Chahine et Elton Mokolo de m'avoir accompagné. Salut les gars.
Salut. Salut.
Continuez nous suivre sur folialiga.fr. Nous avons des contenus quotidiens sur l'actualité du football espagnol ainsi que sur les réseaux sociaux. Allez, hasta luego. Ciao. Adeo.